Les podcasts du Collège de France, biologie.
Donc aujourd'hui, c'est un cours charnière où je vais finir cette histoire de construction de l'œil, d'évolution de l'œil, qui est du système nerveux, hein, qui fait partie de l'évolution du système nerveux, et puis passer sur des choses qui me paraissent importantes pour comprendre comment a pu évoluer le cerveau, c'est-à-dire sur l'origine de la multicellularité. La raison pour laquelle c'est important de comprendre l'origine de la multicellularité, c'est que, comme vous allez voir, dès qu'on fait des organismes multicellulaires, se pose une question essentielle qui est la question de l'information de position, c'est-à-dire qui est devant, qui est derrière, qui est dessus, qui est dessous, comme vous avez pu voir dans un des intitulés d'une séance, que sera évidemment un petit peu décalé. Alors, dans le système nerveux, dans un cortex, mais aussi dans tout le système nerveux, dans un individu, évidemment, les questions de position sont très importantes pour savoir quel organe on va construire en fonction de la position dans laquelle sont localisées les cellules. Donc, aujourd'hui, on ira jusqu'à l'invention de la multicellularité et à partir du 24, on appliquera tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, essentiellement à l'évolution du système nerveux au sens propre, c'est-à-dire le cortex, le néocortex, des choses comme ça, qui vous intéressent plus que tout le reste. Donc, pour en finir avec la vision et avec ce qui, dans la vision, m'intéresse ici au plus haut point, c'est-à-dire l'origine monophylétique ou polyphylétique de l'œil, les grands arguments, si vous voulez, en faveur des origines polyphylétiques de l'œil, c'est-à-dire une invention multiple à plusieurs reprises de l'œil, viennent de l'observation des différents types d'yeux qu'on peut avoir dans la nature. En fait, il y en a trois. Il y a l'œil des vertébrés, hein, que vous pouvez voir ici dans deux exemplaires de genres différents, vous choisissez, et l'œil des céphalopodes, hein, que vous pouvez voir ici, qui ressemble tout à fait à l'œil humain, hein, enfin, c'est ce qu'on dit. Et puis l'œil à facettes des arthropodes. Et en fait, malgré la fonction identique qu'ont ces trois organes, enfin ce même organe dans ces trois organismes, en fait, leur structure est très différente. Et je prendrai juste deux exemples, parce que ce sont des exemples qui ont été très utilisés par Darwin, par Bergson, et en fait par un certain nombre aussi d'idéologues qui sont opposés à l'idée qu'il y a une origine monophylétique de l'œil. L'exemple 1, c'est le céphalopode, hein, le calamar, par exemple, voilà ici. Ici, par contre, excusez-moi, et l'œil humain. Hein. Donc, si vous constatez, si vous regardez un tout petit peu comment ça fonctionne, chez le calamar, vous avez une rétine, hein, qui est une lentille, vous avez des fibres qui partent de la rétine et qui montent vers les ganglions nerveux, vous avez un iris, et puis vous avez une cornée. Et fondamentalement, si vous regardez un œil de sapiens, vous avez une rétine, vous avez des fibres qui partent vers les centres supérieurs, une lentille, un iris et une cornée. Donc ça se ressemble énormément. Si on rentre un petit peu dans les détails, chez le calamar, vous avez des photorécepteurs qui sont situés du côté où vient la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose que rencontre un photon après la traversée de la lentille, c'est un photorécepteur. Et ensuite, vous avez un transport par des cellules qui vont aller projeter vers les centres supérieurs. Alors que chez un vertébré, d'abord, vous avez plus de couches de cellules, mais ça, c'est une invention relativement récente, la troisième couche de cellules bipolaires. Mais ce qui est surtout important, c'est que les photorécepteurs sont au fond, c'est-à-dire qu'en fait, la lumière doit traverser toutes les couches cellulaires avant de stimuler les photorécepteurs qui ont une position donc, qu'on appelle reverse ou inverse par rapport à la direction de la lumière. Donc ça, c'est une grosse différence. Mais la plus grosse différence, vous la voyez au niveau de l'embryogenèse, parce que chez un céphalopode, tout l'œil provient de l'ectoderme. Donc en fait, vous avez ici l'ectoderme qui s'invagine comme ça, puis vous avez des cellules qui se différencient, et puis ces cellules-là
vont aller envoyer des nerfs vers les ganglions cérébraux du céphalopode. Alors que chez un vertébré, c'est le cerveau qui envoie un petit diverticule à partir du diencéphale, et ce cerveau, quand il va aller toucher l'ectoderme, va induire la cornée, va induire l'iris fabriqué par l'ectoderme. Donc c'est une chose très différente, c'est-à-dire qu'il y a une concomitance entre une activité qui vient du système nerveux central, une activité qui est en fait dans l'ectoderme de la peau, d'une certaine façon. Donc vous voyez ici que ces cellules-là, toutes les cellules de la rétine, et les photorécepteurs compris, sont des cellules qui, dès le départ, sont des cellules qui viennent du système nerveux. Et d'où une question qu'on voit sur le plan embryologique, c'est complètement différent. Et puis, ça pose évidemment une question importante, de savoir est-ce que l'œil était là avant le cerveau ou le cerveau avant l'œil. Et des gens vous diront que s'il faut un cerveau pour faire de l'œil, c'est que le cerveau était là avant. Et ça serait évidemment à l'inverse de tout ce que je peux vous raconter depuis maintenant 4 séances. Je vais revenir sur cette question, mais il faut voir ça justement d'un point de vue évolutif. Donc j'y reviendrai quand je discuterai un tout petit peu la fin de Walter Guérin. Enfin, il n'est pas mort, mais la fin de ce que je voulais dire sur Walter Guérin. Donc ces différences, qui sont différences très classiques entre les yeux des céphalopodes, les yeux des mouches aussi, je ne vais pas perdre mon temps là, enfin des arthropodes, et les yeux des vertébrés, pour ne pas parler des praires, bien entendu, et des coquilles Saint-Jacques, enfin, qui ont tous des yeux un petit peu différents, plaident pour certaines personnes en faveur de ce qu'on appelle l'évolution convergente, c'est-à-dire que c'est la fonction, d'une certaine façon, la fonction voir, qui aurait induit des systèmes qui se ressemblent, mais qui ne sont pas les mêmes, et ce qui supposerait que la vue, ou l'œil en tout cas, sinon la vue, l'œil, aurait été inventé un très grand nombre de fois. Et dans les premiers travaux de Ernst Mayr, le père de la théorie synthétique de l'évolution, il va jusqu'à proposer que l'œil a été inventé entre 40 et 65 fois, ce qui me paraît tout à fait ahurissant et improbable. Donc, si vous avez suivi le cours et les éléments que j'ai versés à ce dossier, depuis maintenant 5 heures de cours, enfin 4 heures, vous aurez vu que ces éléments plaident fortement, je pense, en faveur de l'origine monophylétique de l'œil, selon le schéma de Gehring, dans lequel nous aurions l'œil originaire, qui est donc l'œil proposé par Darwin, d'une cellule pigmentaire et d'un photorécepteur, donc l'œil prototypique, et que c'est après que des stratégies divergentes ont été développées au cours de l'évolution par les différents organismes appartenant à différents embranchements. Et là, je vous ai parlé essentiellement des céphalopodes, des vertébrés et des mouches. Mais que jusque-là, il y aurait eu une invention d'un œil prototypique lié à des arguments, sur la base d'arguments, qui sont finalement des arguments génétiques. Donc, l'argument génétique vient de ce gène, de cette famille de gènes qu'on appelle PAX6, et j'ai mis ici en rouge avec un point d'interrogation, pour justement se poser la question à quel moment connecteur, ce gène maître, comme dit Walter Guérin, encore que ce soit un terme, j'ai déjà dit que j'aime pas beaucoup, a été inventé. Nous allons y arriver tout de suite. Donc c'est à partir de mutations, mais c'est quand même ce gène qui est l'argument le plus fort, qui fournit l'argument le plus fort en faveur de l'origine monophylétique des yeux. Donc en effet, parce que c'est à partir d'animaux sans yeux, anophthalmiques, chez les vertébrés, chez les mouches, chez les vertébrés, donc chez la souris et chez l'homme, que c'est le même gène qui à chaque fois a été trouvé chez les mouches et chez les arthropodes, chez les arthropodes et chez les vertébrés. Donc ça c'est important. Et par même, je veux dire orthologue. Si vous vous souvenez un tout petit peu de ce que j'ai dit la semaine dernière sur les orthologues, c'est-à-dire des gènes qui sont homologues à travers l'évolution. Alors si vous en souvenez pas, c'est pas grave. Je vais revenir dessus dans un instant sur la définition d'orthologie. En tout cas, ce sont des gènes qui dérivent d'un même gène chez l'ancêtre commun. que nous partageons avec les arthropodes, c'est-à-dire chez Urbilateria. Urbilateria, c'est l'ancêtre des organismes à symétrie bilatérale. Donc, cette conservation implique, à mon avis, que Paxis a joué un rôle dans le développement de l'œil du Bilateria, puisque si arthropodes et vertébrés en ont besoin pour construire l'œil, leur ancêtre commun aussi, probablement. D'où les fameuses expériences de perte et gain de fonction de Paxis, et surtout la démonstration particulièrement intéressante que si je prends le gène humain, je peux créer un œil supplémentaire aussi chez la mouche. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de prendre l'œil de mouche, le gène de mouche, le Paxis de mouche, et le surexprimer dans le disque imaginal de l'antenne pour faire un œil de mouche. Si je prends le gène humain, Paxis humain, et que je surexprime chez la mouche, je fais un œil de mouche, bien entendu, parce que j'active les réseaux génétiques de la mouche. Donc, comme vous pouvez voir aussi, je peux faire ça sur la patte, vous vous en souvenez, j'imagine. Mais quand je fais une mutation de Paxis chez la mouche, je perds les yeux, hein, mais je ne perds pas ce qu'on appelle les ocelles. Vous voyez ici, vous avez ici les yeux, et au centre, là, vous avez trois petits yeux, tout petits, qu'on appelle des ocelles, qui sont aussi du système visuel, je ne perds pas. Ce qui laissait suggérer qu'il y avait peut-être un autre gène qui était impliqué dans le développement de l'œil chez la drosophile. Et ce gène a été cloné, et s'appelle TOI, hein, Twin of Eyeless, c'est-à-dire Eyeless, c'est Paxis, Twin of Eyeless. Et quand je supprime TOI, alors je perds non seulement les yeux, mais je perds la tête, quand je suis une mouche, hein, bien entendu. Mais il y a une façon de perdre la tête aussi quand on est un arthropode, on en parlera, un vertébré, on en parlera. Je commence à confondre les arthropodes et les vertébrés, ça devait arriver. Je suis pour l'origine monophylétique, donc je me sens un peu arthropode aussi par moment. Donc je voudrais aussi vous montrer que Paxis se met, est en fait maintenant couvre de façon TOI et Eyeless, Twin of Eyeless et Eyeless, sous le terme Paxis, mais que ce qui ici joue, ce n'est pas uniquement ces deux gènes, c'est un réseau de gènes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que je n'aime pas le terme de gène maître. Pour construire un organe, il ne suffit pas d'un gène, il faut un réseau de gènes. Et là, vous avez quelques éléments de ce réseau de gènes, sinéoculis, eye absent, dashunt, enfin, etc. Donc, ce qu'on met en place quand on active Paxis, c'est un réseau de gènes qui est conservé de façon orthologue aussi et qui permet la construction de l'organe œil. Donc, ce qui s'est passé pour TOI, c'est que vous aviez donc un premier gène, vous avez une duplication, donc ces deux gènes sont des gènes paralogues, rappelez-vous. Hein. Ces deux gènes ici, qui sont dans deux espèces différentes après évolution, sont des gènes orthologues, c'est ce que je vous disais, mais là, vous avez une duplication, et après l'évolution, Paxis est resté Paxis, mais l'autre a évolué en Twin of Eyeless, c'est-à-dire le jumeau de Paxis. Hein. Et il a pris le dessus, c'est-à-dire que tout d'un coup, le produit de Twin of Eyeless est venu contrôler la synthèse des produits de Paxis. Donc Paxis était là en avant, mais il s'est mis sous le contrôle de son paralogue qui a ensuite évolué comme Twin of Eyeless. En tout cas, c'est ce que propose Guérin. Alors, Nielsen, dans un article qu'il a publié dans Current Opinion in Neurobiology en 2004, contre l'argument monophylétique, en avançant un argument assez curieux, il dit que les homologies génétiques ne se traduisent pas forcément en homologie morphologique, et que du fait, on peut avoir une origine polyphylétique liée à l'hétérogénéité des phénotypes. Or, nous savons quand même qu'un même génotype peut donner naissance à plusieurs phénotypes. D'ailleurs, on a consacré quasiment toute une leçon à ça, la première ou la deuxième, si mon souvenir est exact. Donc, je suivrai Walter Guérin, et je le ferai en tout cas quand il propose que tous les yeux des bilateria remontent au prototype darwinien, qui est similaire à celui des planaires, hein, mais que la suite repose effectivement sur un processus divergent. Bon, je ne m'avance pas sur le passage entre les bactéries ou les chlamydomonas et ce premier œil. Mais à partir de là, je crois qu'on peut dire que tous ces yeux ont une origine monophylétique. Et qu'ensuite, évidemment, il y a des processus d'évolution divergente. Ce n'est pas parce qu'on a un ancêtre commun avec les mouches que nous sommes des mouches. Nous ne sommes même pas des singes. Ça, on en parlera de ça à la fin de la série de cours. Donc, Gehring propose deux hypothèses évolutives. La première, c'est que les métazoaires se sont formés par le rassemblement de cellules eucaryotes séparées. Donc ça, c'est un cas typique où toutes les cellules se sont mises ensemble pour faire un petit métazoaire et qu'il y a des cellules qui sont spécialisées, certaines faisant les photorécepteurs et d'autres faisant les pigments. Donc c'est donc une coopération, si vous voulez, entre plusieurs types cellulaires qui se sont mis ensemble. Il y a aussi une autre hypothèse, alors ça c'est l'hypothèse, disons, la plus classique, hein, mais Gehring est un peu plus provocateur que ça, c'est-à-dire qu'il a aussi une autre proposition dont je pense que c'est celle qu'il préfère, et qui est qu'au fond, au début, il y avait une seule cellule hein, de ce type, celle, je vous rappelais, cet organisme existe, hein, c'est Groth qui l'a découvert en 1964, avec des organismes qui auraient déjà, dans une seule cellule, des pigments et des photorécepteurs. Voilà ici un organisme de ce type avec une lentille, une cornée, des pigments et des photorécepteurs. Pas de nerfs, bien entendu, il n'y a pas de nerfs à ce niveau-là, mais que c'est par la phagocytose, hein, ce sont des endosymbiontes, c'est-à-dire que l'idée, c'est que les dinoflagellés, ça sont des dinoflagellés, auraient été mangés par des cnidaires, c'est-à-dire des hydres, hein, et qu'ils auraient pu transférer leur gène de photoréception au cnidaire. Donc, ils auraient donné les yeux au cnidaire. Les cnidaires auraient acquis les yeux à la suite d'un processus endosymbiontique. Et puis, c'est l'hypothèse des poupées russes, parce que derrière ça, d'abord, ils supposent du fait que la sensibilité à la lumière vient des cyanobactéries, donc, et qu'elle serait passée aux algues rouges, sous la forme de chloroplastes primaires, et puis ensuite vers les dinoflagellés, et de là vers les cnidaires. Donc, vous voyez, de fil en aiguille, à force de phagocyter ceux qui sont en dessous, on aurait fait venir l'œil des cnidaires, à partir des yeux des présents, des yeux entre guillemets, des appareils visuels, je ne sais pas si on peut l'appeler d'œil, présents dans des organismes unicellulaires. Donc ça, c'est assez intéressant, en tout cas c'est très très spéculatif, mais c'est une hypothèse que je trouve plaisante. Mais il reste évidemment à placer Paxis ou Ailes, si vous préférez, dans ce schéma. Alors, si on fait l'étude de l'expression de Paxis, hein, on se rend compte que Paxis, on va le trouver dans tous les organismes qui ont un œil, hein, que ce soit la drosophile, les planaires, quelques annélides, les vertébrés que vous voyez ici. On va aussi les trouver chez les branchiostomes, pas mal de chordées. Mais on ne va plus trouver Paxis avant les bilateria. C'est-à-dire que, et pourtant, les cnidaires hein, sont des animaux qui ont des yeux. Donc, par contre, on ne trouve pas Paxis, mais on trouve un autre gène qui s'appelle Pax-B. Hein. Et si vous regardez un petit... Alors, il n'y a pas d'homologue direct de Paxis, il y a Pax-B. Et si vous regardez Pax-B... Alors, l'idée de cet auteur ici, qui s'appelle Monsieur Cosmic, K-O-Z-M-I-K, qui a publié cet article dans Current Opinion in Genetics and Development en 2005, et puis un article plus récent en 2008 dans Brain Research Bulletin, c'est que, au fond, c'est Pax-B qui s'est divisé ensuite en deux gènes, deux séries de gènes, qu'on appelle 2 et 4 d'un côté. 4 et 6 d'un côté et 2, 5, 8 de l'autre, et que Pax-B est exprimé dans les yeux des hydrozoaires et des cubozoaires. Hein, si je reviens en arrière. Donc effectivement, Pax-B est exprimé dans les yeux des cnidaires. Vous pouvez voir ici, par exemple, si on va rester juste aux cnidaires. Donc, est-ce que Pax-B a quelque chose à voir avec Paxis? Est-ce que Pax-B est un ancêtre de Paxis sur le plan de l'évolution? Je vous dis oui, on pense que Pax-B s'est séparé. Il y a d'une part une série de gènes 2, 5, 8, Pax2, Pax5, Pax8, et de l'autre côté, Pax4, Pax6. Alors, voilà un tout petit peu comment Cosmic voit ça. Donc, au départ, vous avez Pax-B, Et dans PaxB, vous avez deux domaines. Dans les gènes Pax, vous avez un domaine qu'on appelle un domaine homéodomaine, qui reconnaît des séquences de type ATTA palindromique dans les promoteurs. Excusez, c'est un petit peu technique, mais ce n'est pas très grave. Disons que ça reconnaît un petit bout de certains promoteurs de gènes. Et puis, vous avez un domaine qu'on appelle un domaine PAIRD, qui reconnaît, lui, des séquences un peu plus longues, de l'ordre de 17 nucléotides, dans d'autres promoteurs. Et l'idée, c'est qu'au départ, vous aviez essentiellement des gènes Pax, de type Pax-B, avec cette façon d'être bipartite qui permet à une partie des facteurs de transcription de réguler l'expression des gènes des opsines, hein, c'est-à-dire, d'une certaine façon, les pigments. Hein, et puis, l'autre côté, qui serait responsable, des photorécepteurs, qui serait responsable de la pigmentation, mélatonine, synthèse des cristallines, et puis de la morphogénèse de l'œil. Et donc, en fait, on aurait au départ une séparation à l'intérieur même du facteur de transcription entre deux activités transcriptionnelles différentes. Et puis ici, il y aurait une duplication génétique. Hein. De nouveau, on a deux paralogues qui apparaissent. Et certains sont devenus purement Pax, hein, comme Pax2, qui ont perdu leur homéodomaine. Donc, et Pax2 serait impliqué dans la formation des cellules pigmentaires et en même temps que dans la morphogénèse, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable dans l'œil des vertébrés de tout ce qui va quasiment jusqu'à la rétine. Hein. Mais Pax6, lui, serait responsable, serait co-responsable, enfin, il ferait uniquement les cristallines, il serait responsable de la synthèse des molécules qui permettent de faire la lentille. Hein. Il coopérerait avec Pax2 pour la pigmentation et la morphogénèse de l'œil, mais il n'y aurait que lui toujours qui serait responsable de la synthèse des opsines. Donc, et puis, évidemment, on pourrait avoir d'autres homéoprotéines à homéodomaine différentes qui, elles aussi, pourraient coopérer avec Pax6 dans la régulation de la synthèse des opsines. Donc, vous voyez, un processus dans lequel on peut dire, d'accord, il n'y a pas de Pax6 chez les cnidaires, mais il y a du Pax-B, et au fond, c'est la même chose. Voilà. Enfin, la même chose. En pratique, la même chose. Donc, en conclusion de cette partie sur l'œil, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des organismes qui n'ont pas d'yeux, hein, par exemple les nématodes, hein, et qui expriment aussi les gènes Pax6, les gènes Pax. Mais je ne pense pas que cela puisse être pris comme un argument contre l'origine monophylétique. En effet, vous vous souvenez, l'invention de la vision est probablement partie d'un perfectionnement de la chémoréception. Et j'en ai discuté ce point la semaine dernière. Donc maintenant, j'en ai fini avec l'œil, vous pouvez dire ouf, hein, et on va passer à l'invention de la multicellularité. Hein. Donc, alors, la multicellularité, on en a déjà parlé en fait. Hein. On en a parlé quand on a parlé de l'invention des eucaryotes. C'est-à-dire que j'ai dit les eucaryotes, ce sont des animaux, des êtres unicellulaires, d'accord, mais qui sont nés parce qu'ils ont phagocyté des bactéries ou des œobactéries ou des cyanobactéries, les bactéries pour donner les mitochondries et les cyanobactéries pour donner les chloroplastes. Et puis, comme je vous l'ai rappelé, les mitochondries, je vous le rappelle parce que j'en ai besoin tout à l'heure, les mitochondries et les chloroplastes ont envoyé une grande partie de leurs gènes au noyau. Ce qui fait que, finalement, aujourd'hui, les mitochondries, par exemple, n'ont plus que 13 gènes. Et tous les autres gènes qui sont nécessaires pour construire une mitochondrie sont passés du côté du noyau. Mais ces cellules eucaryotes, d'une certaine façon, sont déjà des organismes pluricellulaires. Hein. C'est-à-dire qu'on peut dire que si je suis deux bactéries, disons que je suis une plante, je suis une cellule plus deux bactéries, ça veut dire que je suis déjà... plus compliqué qu'une cellule unique. Mais bon, c'est peut-être un tout petit peu sémantique, disons que ça, pour nous maintenant, que ce soit une cellule animale, par exemple, ou une cellule végétale, c'est la première cellule, eucaryote. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je place ce chapitre ici de l'invention de la multicellularité, c'est parce que j'en aurai besoin plus tard, quand je vous expliquerai comment a évolué le cerveau. Hein. Donc là, c'est, je pense que l'invention, je ne suis pas le seul à le penser, beaucoup de gens le disent, l'invention de la multicellularité, c'est une étape essentielle dans l'histoire de l'évolution.
C'est-à-dire que le jour où on est passé au multicellulaire, et ça, c'est quelque chose qui s'est fait plusieurs fois. C'est-à-dire qu'on a inventé entre 15 et 20 fois la multicellularité. C'est une transition majeure dans l'histoire de la vie parce que ça a permis la division du travail au sein des organismes. Donc c'est une transition qui est importante. Il reste qu'elle est un peu énigmatique parce que bien qu'elle se reproduise à plusieurs reprises, une quinzaine de fois, au fond, il n'y a que c'est pas toujours stabilisé. C'est pas stabilisé dans tous les taxons. Et en fait, c'est stabilisé chez les descendants des algues et des plantes terrestres, enfin des algues et des plantes terrestres qui en descendent, des champignons, des animaux et de certaines amibes. Mais pas partout, comme vous pouvez le voir ici. Ça, je vous expliquerai cette positive un petit peu plus tard. Alors, l'avantage de la pluricellularité, ben, d'abord, il y a la taille. Alors, si on est gros, on a moins de chances de se faire manger. Ça donne un petit aide. En tout cas par phagocytose. Et surtout, la spécialisation cellulaire et la division du travail. Par exemple, la coopération métabolique. De toute façon, si vous voulez fixer de l'azote par la nitrogénase, vous ne supportez pas l'oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, la nitrogénase ne fonctionne pas très bien dans un milieu où il y a de l'oxygène. Donc en fait, vous pouvez mettre une cellule qui fait à la fois de l'oxygène, cellule de plante, et fixer l'azote. Donc il y a deux solutions. Vous fixez l'azote la nuit et vous fabriquez l'oxygène la journée. Ou bien vous avez deux types de cellules, des cellules qui sont très très épaisses et qui sont quasiment anaérobiques, donc ils ne voient pas d'oxygène, et qui font l'azote, pendant que les copines, elles, elles fabriquent l'oxygène de leur côté. Donc ça, c'est une coopération. Il faut au moins deux types cellulaires pour être capable de faire ça. Une autre, par exemple, c'est la stratégie des cyanobactéries filamenteuses qui ont deux types de cellules comme ça, des cellules très épaisses et puis des cellules qui sont moins épaisses qui permettent à la fois la respiration anaérobique et une situation aérobique dans le même organisme, bien entendu. L'autre coopération qui est intéressante, c'est la coopération entre le choix entre bouger et se reproduire. Et ça, c'est le coup des flagelles. Vous vous souvenez, nos petites chlamydomonas, là, elles ont deux flagelles. Les flagelles, c'est des microtubules, et à la base des microtubules, il y a un truc qui s'appelle le MTOC, c'est-à-dire le centre organisateur des microtubules. Et ce MTOC, il est aussi nécessaire quand on veut faire, diviser les cellules, pour organiser, si vous voulez, les faisceaux de microtubules sur lesquels les chromosomes vont se séparer quand on va faire une mitose. Donc j'ai une compétition, si vous voulez, entre faire des flagelles qui me permettent de bouger et puis faire une division cellulaire. Donc ça, c'est un petit peu embêtant, mais je peux résoudre le problème en me faisant un organisme multicellulaire dans lequel j'en ai des cellules qui me permettent de bouger et d'autres qui me permettent de grandir. Et ultérieurement, au cours de l'évolution, ce que je peux aussi faire, c'est faire rentrer à l'intérieur les cellules qui se divisent et garder à l'extérieur les cellules qui me permettent de bouger et de récupérer les nutriments à partir du monde extérieur. Donc certains, d'ailleurs, voient là l'origine, si vous voulez, de ce qu'on appelle la gastrulation au cours du développement, voire la séparation entre les lignées germinales et les lignées somatiques. Mais ça, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Donc, mais quand même, vous voyez que ça, c'est le système de Volvox. C'est des organismes qui existent, c'est-à-dire qu'à la surface, on a tout ce qui permet de bouger, de flotter dans la flotte, mais à l'intérieur, on est toujours capable de proliférer et d'augmenter la taille. Donc, et de faire de nouvelles colonies, bien entendu. Voilà. Alors, cette séparation est spatiale. Il faut l'opposer, bien entendu, à une séparation de type chronologique. Je viens de vous mentionner le cas des cyanobactéries qui travaillent pour faire de la photosynthèse le jour et qui fixent l'azote, qui sont hétérotrophes, la nuit. Et il y a d'autres exemples. Il y a un exemple que vous connaissez bien maintenant. C'est l'exemple de la reproduction chez Chlamydomonas, où normalement, je prolifère gentiment, mais à partir du moment où il manque, où je dors, mais à partir du moment où il commence à manquer du milieu, alors je deviens une autre cellule, c'est-à-dire que je pousse mes cils et je deviens en fait simplement des gamètes. C'est-à-dire que je vais pouvoir me reproduire. Mais ce n'est pas synchrone, c'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, plusieurs mécanismes pouvant conduire à la multicellularité ont été proposés par les spécialistes. Alors, il y en a essentiellement deux, si vous voulez. Hein. Ou bien, le premier, c'est je prolifère, et au lieu de me séparer, je reste ensemble. C'est-à-dire que toutes les cellules qui viennent de la première cellule restent collées les unes aux autres. Alors c'est un système, vous voyez, qui a quelque chose de très particulier. C'est le système probablement principal de l'invention de la multicellularité. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est que toutes les cellules ici sont génétiquement assez homogènes. Hein. Alors, il peut y avoir un mutant ici qui va essayer de se tirer, il peut y arriver, mais les différences qu'on va avoir au sein d'un organisme de ce type sont essentiellement de nature épigénétique. La méthylation de l'ADN, la acétylation des histones, de nouveau, je vous renvoie au premier cours, ou au deuxième cours. L'autre stratégie, c'est cette stratégie-là, c'est-à-dire qu'on est tous très dispersés, et à un moment, on décide qu'on se met ensemble. Hein. Mais là, évidemment, vous allez retrouver à l'intérieur de votre bestiole une hétérogénéité génétique qui correspond à l'hétérogénéité des gars qui se sont mis ensemble. Hein. Et non seulement ça, mais si j'imagine qu'ensuite je peux faire des spores, c'est-à-dire avoir une activité de formation de nouveaux organismes, il n'est pas interdit au rouge et au bleu de faire des spores. C'est-à-dire que je vais avoir quelque chose d'hétérogène à chaque fois. Donc, essentiellement, il y a des cas comme ça, il y a un cas, par exemple le cas de Dictyostelium, j'aurai peut-être le temps de vous montrer, correspond à cette stratégie, c'est-à-dire que dès qu'ils commencent, sont des amibes, elles sont unicellulaires, elles mangent des bactéries dans le sol, et dès qu'il n'y a plus de bactéries, il y en a une qui commence, ou quelques-unes commencent à synthétiser de l'AMP cyclique, ce qui est un signal, toutes les autres se rassemblent autour, et commencent à former une limace, qui est un organisme comme ça, et cette limace va se différencier avec un avant, un arrière, va sporuler, va aller migrer dans un autre biotope, sporuler, et puis on aura de nouveau des organismes unicellulaires, mais ils auront pu envahir un biotope plus favorable, il y a encore des bactéries, quoi. C'est-à-dire qu'on peut encore manger, ce qui est essentiel dans l'existence. Donc, l'autre chose, c'est que dans un système comme ça, au cours de l'évolution, si vous voulez mettre une période de compétition entre organismes, là, la compétition, elle va être entre agrégats. Hein. C'est-à-dire que cet agrégat peut aller entrer en compétition avec celui-là et que le meilleur gagne, parce qu'ils sont génétiquement relativement homogènes. Dans un cas comme ça, la compétition, elle va être intra-agrégat. C'est-à-dire qu'en fait, supposez que vous soyez là et que le rouge se divise plus vite que les bleus, il va prendre du poids par rapport au bleu. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes types de stratégies sur le plan de la sélection des génomes, d'une certaine façon. Alors, comme je le disais, pour les généticiens, c'est essentiellement cette stratégie qui a été utilisée dans l'invention de la multicellularité. Alors, il reste que ce soit le premier cas ou le deuxième cas, il y a un vrai problème qui se pose, c'est-à-dire que ça veut dire que les gènes qui étaient responsables, nécessaires à la multicellularité, hein, précédaient l'invention de la multicellularité. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis on se met ensemble et on reste au chaud, on va se coller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes cellules exprimaient des molécules d'adhésion, par exemple, avant qu'elles n'aient besoin de faire ça. Donc, et de même ici, si quand je me rassemble, je me mets à faire des molécules d'adhésion pour rester ensemble, pour faire un organisme, ça veut dire que ces gènes de la future multicellularité étaient déjà présents dans les organismes qui ne sont pas multicellulaires. Donc, comment est-ce qu'une chose pareille est-elle possible, hein? Quelle pouvait être la fonction de tels gènes, des gènes, je dirais, de future multicellularité, c'est-à-dire que, comme s'ils avaient anticipé la chose, hein, chez des êtres unicellulaires, bien entendu. Alors, ou bien ces gènes servaient à autre chose, hein, et ont été réutilisés dans une fonction du type « on se rassemble », hein, où on reste ensemble, selon les deux stratégies qu'on peut envisager, ou bien ils servaient déjà à une interaction cellulaire. Et dans ce cas, je crois qu'on peut envisager, et ce serait vers là que moi je tendrais,
que l'origine de la pulsarité se trouve dans l'interaction de deux unicellulaires, hein, et donc dans la sexualité. C'est-à-dire que deux unicellulaires, au moment où ils vont conjuguer, doivent se rassembler, vous avez vu ça avec la camille de menace, et ça, je pense que c'est l'origine, si vous voulez, de la multicellularité. Donc ce serait dans le sexe qu'on trouverait l'origine de la chose. Donc je vous renvoie évidemment à Chlamydomonas, hein, et je vous rappelle que les flagelles chez Chlamydomonas ne servent pas uniquement à nager, bien qu'ils servent à nager bien entendu, mais au moment où ils vont former un zygote, un œuf, les flagelles s'entremêlent, hein, et permettent aux deux gamètes, le gamète le mating type plus, le mating type moins, de rester collés l'un contre l'autre le temps qu'il se passe quelque chose entre les deux.
Et c'est des mécanismes, alors ça fait non, une stabilité du couple provisoire, bien entendu, surtout chez les chlamydomonas. Mais les mécanismes qui sont impliqués dans l'induction de la gamétogénèse sont inconnus. On notera néanmoins que en rouge ici sont immédiatement, au moment où les deux gamètes vont entrer en contact, en rouge, ce sont des agglutinines, c'est-à-dire ce sont des molécules d'adhésion qui apparaissent à la surface du cil. Le cil, c'est une membrane, hein, une membrane à laquelle il y a des microtubules, donc en fait, c'est comme une surface cellulaire. Donc, à la surface de mes cils, j'ai des agglutinines qui vont permettre la stabilisation. Et puis, de façon extrêmement concomitante, ce que je vois, c'est l'augmentation de synthèse d'une protéine homodomaine, qui est un facteur de transcription, qui est exprimé que par le mating type plus, exactement comme dans MATALFA et la levure. C'est un autre cas de ce type. Et vous voyez que c'est mon dada. On ne peut pas s'empêcher de penser, enfin moi je ne peux pas, que l'homéoprotéine peut passer de MT plus à MT moins et que ça joue un rôle dans la formation du zygote, qui évidemment un organisme pluricellulaire à deux cellules. Mais bon, c'est comme ça que ça démarre. Donc, pour ce qui me concerne, je pense qu'on peut effectivement imaginer que l'origine de la pluricellularité, c'est dans la sexualité des organismes eucaryotes unicellulaires. Alors, je vais revenir maintenant sur l'identification des gènes, hein, qui étaient déjà présents chez les unicellulaires et qui peuvent figurer dans la boîte à outils des pluricellulaires. Hein. Alors, il y a plusieurs projets de ce type qui existent pour identifier ces gènes. Il y en a un qui s'appelle le projet Unicorne. Il s'appelle Unicorne parce que Unicellular Opistoconte Research Initiative. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un opistoconte. Vous êtes des opistocontes, moi aussi. Mais les champignons aussi sont des opistocontes. Voilà les opistocontes. Donc en fait, je vous remets cette diapositive tout à l'heure. Donc vous avez les rhizaires, les alvéolés, les hétérocontes, etc. Donc parmi ces organismes, ce sont des taxons, vous avez des êtres multicellulaires et unicellulaires. Mais en fait, des multicellulaires, on ne les trouve que chez les plantes, les amoebaea, les amibes, les opistocontes et certains hétérocontes. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est que, par exemple, chez les opistocontes, vous avez des formes qui sont uniquement pluricellulaires, les animaux, nous, par exemple, nous sommes là. Il y a des embranchements qui sont uniquement unicellulaires, comme Microsporida, quoi, il y a en bleu ici. Mais vous en avez, comme les coanoflagellés ou les champignons, qui ont des formes à la fois pluricellulaires et unicellulaires. Et donc, comme on est très proche, hein, nous sommes tous ici des opistocontes, y compris les champignons, c'est une chose intéressante parce que on peut retrouver des gènes qui seront communs à des organismes unicellulaires et pluricellulaires chez les opistocontes. Et on peut imaginer que ces gènes ont joué un rôle important dans l'invention de la pluricellularité. Donc, dans le cadre du programme Unicorne, donc Unicellular Opistoconte Research Initiative,
eh bien, on a retrouvé des gènes très intéressants dans une petite bestiole qui s'appelle Monoziga brevicolis, qui est un coanoflagellé unicellulaire, voilà, un cousin à nous, hein, mais unicellulaire, en bleu ici. On a retrouvé chez ce coanoflagellé des gènes de tyrosine kinase, qui sont par exemple des protéines qui sont très importantes dans la transduction du signal, donc d'interaction cellulaire. On a retrouvé des lectines, c'est-à-dire des protéines qui sont exprimées à la surface, qui permettent de reconnaître des sucres. On a retrouvé des cadérines, qui sont des molécules d'adhésion calcium-dépendantes, chez des unicellulaires. Hein. Donc on peut imaginer que ces gènes-là étaient présents très très tôt au moment de l'invention de la multicellularité. Et l'activation des tyrosine kinases, à quoi ça sert d'activer une tyrosine kinase chez un unicellulaire? Eh bien, d'abord, ça entraîne la prolifération de l'unicellulaire, et ensuite, c'est lié à la présence dans le milieu de nutriments, c'est-à-dire de nourriture, mais aussi c'est un quorum sensing, c'est-à-dire que ça permet de sentir la quantité de gens autour de vous, c'est-à-dire que vous êtes dans le RERA, vous allez activer les tyrosine kinases, c'est-à-dire que vous pouvez sentir ça, vous pouvez aussi sentir un partenaire sexuel, pas dans le RERA, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça active les tyrosine kinases de nos amis, de nos cousins, quoi, en quelque sorte, les coanoflagellés. Vous ne saviez pas que vous étiez cousin avec les coanoflagellés, mais pour rien tout vous dire, moi non plus, avant 3 ou 4 mois, donc maintenant je le sais. Donc, ce qui veut dire que, on peut dire que sur le plan de l'évolution, nombre de gènes spécifiques des multicellulaires sont le produit de recombinaisons de modules qui étaient déjà présents chez les unicellulaires. Il y a un cas assez intéressant, c'est que chez les coanoflagellés, par exemple, on trouve une protéine qui ressemble à un module de Sonic Hedgehog. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce qui était l'année dernière, Hedgehog, c'est une protéine, c'est un morphogène très très important dans le développement, dans la morphogénèse des organismes pluricellulaires. Donc, ça remonte de très loin tout ça, à nos ancêtres unicellulaires, qui sont toujours là, d'ailleurs, en l'occurrence, là. Ce sont des cousins maintenant, ce ne sont plus des ancêtres. Donc, alors il y a eu un problème, certains d'un coup, il y a des gens qui disent « Ouais, d'accord, on a des gènes communs avec les coanoflagellés unicellulaires, mais ce ne sont pas des vrais unicellulaires, ce sont des pluricellulaires dégénérés. » Alors là, c'est un truc qui est très, très difficile à gérer comme objection, mais on a eu de la chance parce que à ce moment-là, ce que les gens ont fait, ils ont pris les mitochondries des coanoflagellés, ils ont pris les mitochondries des pluricellulaires, et de tous, hein, les porifères, les cnidaires, les arthropodes, les oursins, et nous, les chordés. Hein. Et comme je ne sais pas si vous vous rappelez, je veux dire que quand les eucaryotes ont avalé les bactéries pour faire des mitochondries, les mitochondries ont balancé leurs gènes au noyau, c'est-à-dire qu'ils ont perdu leurs gènes. Et vous voyez que ici, c'est des gènes très importants dans les mitochondries, COX2, ATPase8, ATPase6 et COX3. Et ceux-là, ils sont dans tous ces êtres-là. Et chez les coanoflagellés, ils sont là, mais il y a aussi d'autres gènes, qui sont les gènes rouges, qui sont les gènes qui ne sont pas encore passés dans le noyau. Et ça, ça démontre que les coanoflagellés sont ancestraux par rapport aux porifères. Donc, ouf, hein, c'est pas le scénario catastrophe, c'est pas les porifères, ils sont repassés en arrière vers les eucaryotes. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est effectivement que ces gènes de la pluricellularité étaient effectivement présents chez des vrais monocellulaires. Et vous voyez que c'était important d'avoir ce marqueur au niveau de la mitochondrie, pouvoir tracer l'âge respectif des coanoflagellés versus les porifères qui sont ici. Donc, voilà. Donc, maintenant, ce qui a été séquencé récemment, c'est tout le génome de Chlamydomonas. Hein, et on a trouvé aussi chez Chlamydomonas des protéines qui codent pour des protéines qu'on trouve en fait chez nous, en particulier ce qu'on appelle des scavenger récepteurs riches en cystéine, qu'on trouve à la surface des macrophages, par exemple, des lectines de type C, des tyrosine kinases et toutes ces choses-là aussi. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais Chlamydomonas, c'est une algue, monocellulaire, hein, et une algue chlorophyrienne qui ont divergé les plantes terrestres. Donc voilà, vous voyez ici que Chlamydomonas est ici. Hein. Et nous, on est ici avec les opisthocontes. Hein, donc le fait qu'on retrouve chez nous, chez les champignons et chez Chlamydomonas, les mêmes gènes, ça veut dire qu'en fait, ici, déjà ici, hein, à l'ancêtre qui sépare les hétérocontes des unicontes, hein, qui vont donner ici les opisthocontes, c'est-à-dire les champignons, les amoebaeas et nous, et puis d'un autre côté, les plantes vertes, eh bien, cet animal-là, c'est pas ce que c'était, avait déjà les gènes de la multicellularité. Donc, c'est quelque chose qui est extraordinairement ancien, et on peut dire que les gènes qui sont partagés par Clavinobenas et par les vertébrés, ou par les animaux, si vous voulez, d'une façon générale, appartenaient au dernier ancêtre commun, aux deux règnes de la nature. Hein. Deux règnes de la nature, c'est-à-dire les plantes, de façon générale, et les animaux. Et donc, c'est intéressant parce que... Alors, c'est intéressant, bon, parce que c'est intéressant, si les gens ne trouvent pas ça intéressant, c'est pas intéressant, mais moi, je trouve ça bien parce que ça nous humilie vraiment complètement, je veux dire, c'est ça que j'aime bien chez Darwin, vous allez voir. Donc, je viens à une autre classe de gènes qui m'intéresse beaucoup, bon, c'est ma marotte, ce sont les homéoprotéines. Donc, ce sont, comme vous le savez, de nouveau des facteurs de transcription qui régulent, qui sont très importants dans la morphogenèse, qu'on trouve chez les plantes, les métaphytes, qu'on trouve aussi chez les métazoaires, mais qui sont aussi des gènes, des protéines de communication intercellulaire. Ça, ça a été démontré chez les plantes. Hein. Voilà ici, par exemple, le shoot meristem, le bourgeon apical, pardon, le bourgeon apical d'un maïs ou d'Arabidopsis, c'est pareil. Donc, au centre ici, vous avez tous les messagers d'un gène, d'une protéine qui s'appelle NOTED1, qui est une homéoprotéine. Et puis, à la surface, vous n'avez pas le messager, vous n'avez que la protéine. Donc, en fait, la protéine, elle passe de là à là. Donc, elle est capable de signaler entre cellules. Et chez les animaux, c'est pareil. Les homéoprotéines, c'est capable de passer d'une cellule à l'autre. C'est des choses qui ont été découvertes dans notre équipe. Hein. Donc, ce sont aussi des gènes de différenciation, des gènes de communication. Ils sont impliqués à toutes les étapes de la morphogénèse. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai signalé que chez la chlamydomonas, on a une homéoprotéine dont je pense qu'elle passe de MT+ à MT-. Mais bon, ça n'a pas été démontré. Mais il faudrait un jour qu'on s'y mette, pas nous, quelqu'un. Et l'idée que cette présence des homéoprotéines qui ont ces fonctions de communication à la fois chez les métaphytes et les métazoaires suggère qu'elles font partie aussi des building blocks des organismes pluricellulaires. Alors, il y a un collègue du muséum, de Rel, hein, qui a regardé chez toutes les taxons, hein, opisthocontes, alors maintenant vous êtes des champions, hein, opisthocontes, chromista, ça c'est les algues brunes. Ils ont regardé où étaient exprimées les homéoprotéines. Et en fait, on se rend compte que ces homéoprotéines sont exprimées spécifiquement dans les quatre taxons qui font des organismes pluricellulaires. À une exception, chez les excavata, il y en a dans Trichomonas vaginalis. Donc, bon, faudra trouver une explication, moi j'en ai pas. Il faut toujours une exception dans ces trucs-là. Donc, mais il y a une assez bonne corrélation, même une excellente corrélation, entre l'expression des homéoprotéines dans un taxon et la présence dans ce taxon d'organismes pluricellulaires. Et à partir de là, d'ailleurs, ils se sont amusés à reconstruire un arbre. Hein. Donc ça, ils l'ont fait, ce truc-là, ils l'ont fait à partir quand même de 42 espèces. Donc ils n'ont pas lésiné. Ils ont recherché les protéines dans 42 espèces et ensuite ils ont fait des comparaisons de séquences entre les protéines et ils ont fait un arbre généalogique. Donc vous avez ici les opisthocontes, hein, donc là il y a des homéoprotéines, il y a les amoebozoaires, donc avec Dictostelium qui est capable de faire un organisme par rassemblement des cellules qui vont faire une limace, comme je disais tout à l'heure, et là vous avez aussi des homéoprotéines. Chez les plantes, il y en a pratiquement partout, mais il y a des plantes qui en ont perdu. C'est-à-dire que si vous en avez là et là, et vous n'en avez pas dans cet organisme-là, ça veut dire qu'il a été perdu en cours de route. Pareil chez les hétérocontes, et puis chez les excavata, il n'y en a pas, mais il y en a chez Trichomonas. C'est ça, là, ça a été perdu de nouveau. Donc, on a chez Trichomonas. Donc, en fait, comme vous voyez, tous ces taxons qui sont capables de faire des organismes pluricellulaires sont aussi capables d'exprimer ces facteurs de transcription. Dans les facteurs de transcription, il y en a plusieurs. On peut faire en fonction des séquences, On peut aussi faire des aligner. Donc là, je ne vous ai pas donné tous les détails, mais ce que je voudrais que vous voyez, qui à mon avis est amusant, c'est que normalement, un facteur de transcription de cette famille, elle se fixe à l'ADN par une structure qu'on appelle l'homéodomaine, qui est composée en trois hélices, 1, 2 et 3. Et il y a un groupe de facteurs de transcription qu'on appelle le groupe TALE, T-A-L-E, dans lequel il y a trois acides aminés en plus entre l'hélice 1 et l'hélice 2. Donc ça les caractérise comme une famille très particulière. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans le groupe TEL, vous avez déjà des métazoaires, des plantées, des champignons et des amibes. C'est-à-dire que cette séparation, et là aussi vous avez les quatre taxons, et là aussi vous avez les quatre taxons, etc. Puis il y en a des familles d'homéoprotéines où il n'y a qu'un seul taxon. Mais ça, ça veut dire que l'ancêtre commun à tous ces taxons avait probablement déjà une composition extraordinairement complexe en facteurs de transcription de la famille. Donc, il ne faut pas imaginer que les ancêtres sont particulièrement simples. Des fois, ils sont horriblement compliqués, au niveau moléculaire aussi, et il peut y avoir des pertes secondaires au cours de l'évolution dans les différents taxons, dans les différents embranchements. Donc, voilà. Donc maintenant, avant de terminer... j'aimerais en venir au cas de Dictyostelum. Hein. Alors, voilà exactement ce que je vous disais. En gros, hein, ça, c'est un arbre qui a été dessiné par Meyerowitz il y a très longtemps, en 1999, mais très longtemps. Bon, ça dépend pour qui. Donc, l'origine de la vie, 3,5 milliards d'années. Hein. Vous avez les bactéries, au fond, et à un moment, les mitochondries sont passées dans les archébactéries, vous vous rappelez, et on a fabriqué des unicellulaires. Et c'est par là, dans cette région-là, il y a 1,5 milliard d'années, qu'on a eu le premier ancêtre hein, commun aux plantes et aux animaux. Hein. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. D'ailleurs, on ne l'appelle pas. Et puis ensuite, les chloroplastes qui sont passés là ont donné les plantes et les animaux. Et donc, dans cette région-là, il y a 1,5 milliard d'années, la complexité est déjà suffisamment importante pour permettre de construire, à partir des unicellulaires, de cet unicellulaire, des organismes pluricellulaires. Nous, donc. Donc, je termine avec Dictyo, qui est un cas intéressant, Dictyo, parce que, je vous rappelle, ce sont des amibes, donc des cellules eucaryotes totalement dispersées, qui poussent sur un sol et qui se nourrissent sur ce sol de bactéries. Mais si vous supprimez la bactérie, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont mangé tout, tout d'un coup, elles se mettent à faire un signal qui est de l'AMP cyclique, qui est donc un nucléotide modifié, qui est sécrété. Et cet AMP cyclique, il sert d'agent chémotactique, c'est-à-dire qu'il y a des récepteurs de type 7 membranes, 7 segments transmembranaires, les GCRP, dont je vous ai parlé la dernière fois, et l'AMP cyclique, c'est d'ailleurs qui ont des relations de séquence avec les récepteurs rétinales. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé un tout petit peu de ça. Et donc l'AMP cyclique se fixe sur ces récepteurs, il y a quatre classes de récepteurs, et tout d'un coup, ça provoque la migration de tous les individus seuls vers les groupes qui commencent à sécréter de l'AMP cyclique. Et ça, ça peut faire... alors, ils se suivent à la queue leu-leu, tout d'un coup, ils s'agrègent, ils sont joints à la queue leu-leu par des molécules d'adhésion qui ne sont pas calcium-dépendantes, et elles peuvent aussi s'agréger sur les côtés par des molécules d'adhésion qui sont calcium-dépendantes. Donc déjà, là aussi, il y a toutes ces molécules d'adhésion qu'on retrouve chez tous les organismes pluricellulaires qui sont induites et qui permettent ces migrations. Et puis, ça fait des organismes où il peut y avoir, disons, 100 cellules, et des organismes où il peut y avoir 100 000 cellules. Donc c'est énorme, c'est une variation extrêmement importante. Et ensuite, il y a une différenciation. Donc ça fait un dôme, comme ça, et puis ça s'allonge, et tout d'un coup, il y a un avant, il y a un arrière. Donc là, l'avant... L'avant, c'est ce qu'on appelle le pré-stalk A. Ça, c'est la tige, donc la région pré-tige A, la région pré-tige B, O, et puis une région B. Et si j'ai pris ça, c'est parce que tout d'un coup, je vous l'ai dit, ça fait une tige, et puis les spores vont partir suffisamment loin, s'il y a un bon coup de vent, et que la limace a un peu avancé, pour aller chercher des endroits où les bactéries sont encore là, n'ont pas été mangées. Donc il y a quand même un gros avantage là, à la multicellularité, c'est d'aller chercher des biotopes enrichi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès que vous faites un organisme où vous avez différentes régions, bien évidemment, il faut contrôler ces différentes régions, donc il faut des signaux de régionalisation. Et donc, on a cherché des homoprotéines dans le dictyostélium et on en a trouvé. Et voilà ici PSTO chez un animal normal. Et ici, voici ce qui se passe dans un mutant où vous avez supprimé cette homoprotéine. Vous avez fait un mutant négatif pour cette homoprotéine. Et vous voyez que vous avez une modification du territoire PSTO par rapport au territoire PSTA. Et ça, c'est exactement ce que vous allez voir dans les semaines qui viennent au niveau de la formation d'un système nerveux, par exemple. C'est-à-dire que c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que si vous faites des mutations homéotiques dans un système nerveux, vous allez modifier les tailles respectives des territoires. Donc ce sont des mécanismes extraordinairement anciens, hein, et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus depuis maintenant quelques heures. Ce sont des systèmes extraordinairement anciens qui sont toujours actifs aujourd'hui quand il s'agit d'organiser fondamentalement un organisme pluricellulaire. Alors, vous me permettrez de terminer un tout petit peu avec Darwin, puisque là on arrive à un tournant dans le cours, c'est-à-dire qu'à partir dans trois semaines, à partir du 24, je vais arrêter avec toute l'origine du vivant et on va entièrement se consacrer à l'évolution du cerveau, pour ainsi dire. J'ai terminé en vous citant quand même Darwin dans La descendance de l'homme. Donc, nous avons attribué à l'homme un pédigree d'une longueur prodigieuse, mais pas, pourrait-on dire, de noble qualité. Le monde, cela a souvent été dit, semble s'être préparé de longue main à la venue de l'homme. Et cela, en un sens, est strictement vrai, car il doit sa naissance à une longue lignée de progéniteurs. Si un seul des liens de cette chaîne n'avait jamais existé, l'homme n'aurait pas été exactement ce qu'il est aujourd'hui.
Peut-être même qu'il ne serait pas là. Darwin fait un peu attention quand même.
À moins que nous nous aveuglions volontairement, nous pouvons, avec nos connaissances actuelles, reconnaître approximativement notre parenté.
Une parenté, c'est les ascidies, c'est les mouches, c'est les euglaines, c'est toutes ces choses-là.
Et nous n'avons nulle raison d'en concevoir de la honte. L'organisme le plus humble est une chose très supérieure à la poussière inorganique sous nos pieds. Et personne avec un esprit non biaisé ne peut étudier une créature vivante, quelque humble qu'elle soit, sans être frappé d'enthousiasme devant le merveilleux de sa structure et de ses propriétés.
En quelque sorte, nous avons pris l'ascenseur social, mais c'est peut-être pas pour ça qu'il faut oublier nos origines. Et à partir de dans trois semaines, je vous décrirai l'évolution de l'ascenseur social, c'est-à-dire en fait l'évolution du cerveau. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.